Dans le pré aux iris, l'enfant suit en rechignant la servante qui est venue le chercher. Il jouait au chevalier, la gaule en main, et était au moment d'enfoncer les défenses de l'apprenti où des méchants retenaient prisonnière la fille du meunier. Mais voici justement que les frères de Marie rentrent d'inspecter leur champ. Ils sont poudreux, sentent la sueur de cheval et ont les ongles noirs. Jean, l'aîné, est déjà pareil à ce que fut leur père. Il a l'estomac lourd par-dessus la ceinture, la barbe broussailleuse, et les deux crocs lui manquent parmi ses dents gâtées. Il attend une guerre pour se révéler, et chaque fois que devant lui on parle de l'Angleterre, il crie que le roi n'a qu'à lever l'ost, et que la chevalerie saura bien montrer ce dont elle est capable. Il n'est point chevalier du reste, mais il pourrait le devenir à la faveur d'une campagne. Il n'a connu des armées que l'ost boueux de Louis Hutin, et l'on n'a pas fait appel à lui pour l'expédition d'Aquitaine. Il a nourri un moment d'espoir lors des intentions de croisade de Mgr Charles de Valois, et puis Mgr Charles est mort. Ah, que ce baron-là eût fait un bon roi! Pierre de Cressay, le cadet, est resté plus mince et plus pâle, mais ne soigne guère davantage sa mise. Sa vie est un mélange d'indifférence et de routine. Ni Jean ni Pierre ne s'est marié. Leur sœur veille au ménage depuis la mort de leur mère, Dame Eliabel. Ils ont ainsi quelqu'un pour assurer leur cuisine, réparer leur gros linge, et contre Marie, ils peuvent s'emporter à l'occasion plus aisément qu'ils n'oseraient le faire envers une épouse. Si leurs choses sont déchirées, il leur est toujours loisible de tenir Marie pour responsable de ce qu'ils n'ont pas trouvé femme à leur convenance à cause du déshonneur par elle jeté sur la famille. À cela près, ils vivent dans une aisance limitée, grâce à la pension que le comte de Bouville fait régulièrement servir à la jeune femme sous le prétexte qu'elle fut nourrice royale, et grâce aussi aux cadeaux en nature que le banquier Ptolemy continue d'envoyer à celui qu'il croit son petit neveu. Le péché de Marie a donc été pour les deux frères de quelque avantage. Pierre connaît à Montfort-l'Amaury une bourgeoise veuve qu'il va visiter de temps à autre, et ces jours-là, il fait toilette avec un air coupable. Jean préfère ne chasser qu'en ses labours, et se sent seigneur à peu de frais parce que quelques gamins dans les hameaux voisins ont déjà sa tournure. Mais ce qui est honneur pour un garçon de noblesse est déshonneur pour une fille noble. Cela se sait. Il n'y a pas à y revenir. Les voilà tous deux bien surpris, Jean et Pierre, de voir leur sœur attournée de sa robe de soie, et Jeannot trépignant parce que on le débarbouille. Est-ce donc jour de fête, dont la mémoire leur a manqué ?
Guccio est un oufle, dit Marie.
Et elle recule parce que Jean serait bien capable de lui envoyer un soufflet. Mais non, Jean se tait. Il regarde Marie et Pierre de même, les bras ballants. Ils n'ont pas la cervelle modelée pour l'imprévu. Guccio est revenu. La nouvelle est de taille, et il leur faut quelques minutes pour s'en pénétrer. Quel problème cela va-t-il leur poser? Ils aimaient bien Guccio. Ils sont forcés d'en convenir lorsqu'il était compagnon de leur chasse, qu'il leur apportait les faucons de Milan. Ils ne voyaient pas que le gaillard faisait l'amour à leur sœur presque sous leur nez. Puis ils ont voulu le tuer quand Dame Eliabel a découvert le péché au ventre de sa fille. Puis ils ont regretté leur violence. Après qu'ils eurent visité le banquier Ptolemy en son hôtel de Paris et compris, mais trop tard, qu'ils eussent mieux préservé leur honneur à laisser leur sœur s'éloigner mariée à un Lombard qu'à la garder mère d'un enfant sans père. Ils n'ont guère le temps de s'interroger, car le sergent d'armes à la livrée du comte de Bouville, trottant un grand cheval bai et portant cotte de drap bleu dentelé autour des fesses, entre dans la cour du manoir qui se peuple aussitôt de visages ébaubis. Les paysans mettent le bonnet à la main, des têtes d'enfants surgissent des portes entrebâillées, les femmes s'essuient les mains à leur tablier. Le sergent vient délivrer deux messages au sire Jean, l'un de Guccio, l'autre du comte de Bouville lui-même. Jean de Cressay a pris la mine importante et hautaine de l'homme qui reçoit une lettre. Il a froncé le sourcil, avancé les lèvres en lippe à travers sa barbe, et ordonné d'une voix forte qu'on fasse boire et manger le messager, comme si celui-ci venait de fournir 15 lieues. Puis il se retire auprès de son frère pour lire. Ils ne sont pas trop de deux. Il leur faut même appeler Marie, qui sait mieux les chiffres et les signes d'écriture. Et Marie se met à trembler, trembler, trembler.